Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44, merci d'écouter RTL. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc le maire de Lyon, Gérard Collomb.
Et merci d'être sur RTL ce matin, Gérard Collomb. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que vous vous exprimez relativement rarement quand même, en dehors de votre fief lyonnais. Vous êtes ici au surlendemain de l'incendie de Notre-Dame. Vous étiez à Lyon ce soir-là, entre Rhône et Saône ?
J'étais à Lyon, je rentrais chez moi pour pouvoir regarder tranquillement l'allocution du président de la République. Et donc, lorsque je mets la télévision, je m'aperçois que Notre-Dame est en flammes. Donc, évidemment, comme tous les Français, il y a un effet de sidération parce qu'on ne pense pas que cela puisse arriver. Et donc, je crois que l'émotion à ce moment-là est très forte chez tous les Français, même à travers le monde. On voit que l'image de la France est quand même forte parce que, à travers Notre-Dame, c'est une histoire, une culture qui s'exprime. Et on voit que finalement, il y a un attachement à la France qui reste extrêmement important.
Mais on ne pensait pas que ça puisse arriver. Hier, Emmanuel Macron, dans son allocution, justement, à 20h, a dit « rien n'est indestructible ». Dans le fond, il a eu raison de rappeler la fragilité de toute chose.
Mais je crois que son discours était évidemment métaphorique. C'était là, il parlait à la fois de Notre-Dame, mais il parlait de notre pays. C'est-à-dire que notre pays pouvait être lui aussi fragile, et donc il fallait le construire ou le reconstruire peut-être sans cesse.
On va rester sur la reconstruction de Notre-Dame, on parlera de la reconstruction de la France dans un instant, mais c'est vrai qu'hier matin, dans tous nos commentaires, on disait tous il faudra une génération pour reconstruire. On ne le verra peut-être pas de notre vivant, pour certains. Et puis hier, le président dit dans 5 ans, c'est l'échéance. C'est réaliste ? Reconstruire Notre-Dame ?
Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du bâtiment, sauf à Lyon, mais on peut construire relativement vite, je crois. Nous avons construit beaucoup et nous l'avons fait dans des délais records. Encore faut-il avoir effectivement des procédures qui soient allégées, parce que c'est aujourd'hui ce qui prend le plus de temps. Oui, on peut reconstruire et on peut pas refaire une imitation, mais peut-être créer la Notre-Dame du 21e siècle, comme Viollet-le-Duc avait osé à son époque.
En son temps, donc, reconstruire, mais pas forcément à l'identique. Afflux de solidarité, Yves Calvi disait tout à l'heure, juste avant 7h, Stéphane Bern est arrivé à près d'un milliard de dons, de toutes dimensions, de toutes parts, de Lyon aussi.
Oui, de Lyon. Je proposerai au conseil municipal en mai prochain une subvention de 200 000 euros pour Notre-Dame.
200 000 euros qui vont s'ajouter donc, si on peut dire, dans l'escarcelle de la somme, de ceux qui recueillent les dons pour reconstruire Notre-Dame. Emmanuel Macron est venu donc hier soir évoquer ce drame parisien, national, patrimonial. Il s'est posé en bâtisseur. En reconstructeur, vous disiez, il parlait de lui aussi.
Oui, d'abord, si vous voulez, je crois qu'il a trouvé hier les mots justes et que par rapport à l'intervention qu'il prévoyait et qui semblait plutôt un égrenage de mesures, il allait finalement au fond, c'est-à-dire à ce qui fait l'âme de la France dans ses profondeurs historiques, culturelles. Et je crois que voilà, ça résonnait juste aux oreilles des Français.
Vous voulez dire que c'est presque une occasion pour lui de mettre de la profondeur à un discours qui, tel qu'on l'a lu dès hier midi sur RTL, les annonces étaient plus catégorielles que globales.
Je crois que c'est sa volonté et qu'il a su saisir l'importance de l'instant. C'est un instant effectivement que les Français ont conçu comme historique et donc à partir de là il s'est positionné dans cette capacité à faire renaître une France que l'on sait faire, que l'on sait fragile.
Enfin il dit ne cédons pas à la hâte, comme pour faire la leçon à ceux qui s'impatientent. C'est un sentiment que vous avez pu éprouver vous aussi, l'impatience, et puis les Français aussi. Ils peuvent se dire maintenant on attend les décisions.
assez clair que dans quelque temps, il va devoir s'exprimer. Et à mon avis, il convient...
Mais quand, alors, à votre avis, c'est quand le bon moment, maintenant?
Je ne sais pas, c'est lui qui choisit, comme toujours. Il ne faudra pas que ça tarde, évidemment, trop. Mais à mon avis, d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas une série de mesures qu'il faut égrener. C'est plutôt un cap qu'il faut pouvoir donner dans des circonstances qui sont difficiles. Vous venez de parler de notre environnement économique, et notre environnement économique mondial n'est pas très fameux aujourd'hui, avec un ralentissement de la croissance mondiale, un affrontement commercial entre la Chine et le Japon, avec le Brexit, avec une Allemagne qui connaît de grandes difficultés. Donc, comment la France peut-elle, dans ces circonstances-là, pouvoir continuer à aller de l'avant? Je crois que c'est la vraie question, au-delà de tous les problèmes catégoriels des uns et des autres.
Mais dans ce qu'on a pu lire, de ce qu'il devait annoncer lundi soir, s'il n'y avait pas eu ce drame de Notre-Dame, pardon, mais c'était quand même en grande partie un catalogue de mesures.
Oui, c'est un catalogue de mesures.
Eh bien, ça n'est pas la réponse appropriée, dites-vous, ce matin. Il faudrait donner un peu plus.
Je pense, si vous voulez, qu'il faut relier ces propositions entre elles, parce qu'autrement, cela fait un peu réponse à chaque catégorie. Je réponds aux personnes âgées, je réponds à ceux qui sont dans les territoires en difficulté, par exemple, sur la fermeture d'écoles, d'hôpitaux, etc., etc. Mais je ne trace pas un chemin pour la France. Et à mon avis, ces mesures, il va falloir leur donner un sens et dire où on va. D'ailleurs, c'est ce qui manque depuis pas simplement le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais déjà avant, c'est ce sens qu'il faut donner à l'action de la France et des Français. Vous voyez, il a appelé les Français à se mobiliser davantage, à travailler davantage. S'il veut qu'il soit entendu, il faut effectivement qu'il comprenne pourquoi.
Et là, vous dites que c'est l'occasion pour lui de reprendre sa copie.
Oui,
c'est ce que
vous
nous dites ce matin.
Je crois qu'il y aura un avant et un après qui a été marqué par un événement dramatique. Et donc, cela permet d'entamer une deuxième phase du quinquennat.
D'un mal tragique, l'incendie
bien
peut
sûr
sortir à bien pour Emmanuel Macron. C'est une
et
opportunité
j'espère
pour lui.
Pour la France.
Et pour la France. Parce que vous dites qu'il manque une vision. Mais est-ce que l'ensemble de ce qu'on a lu, de ce qu'on a dit sur RTL, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, la réindexation des retraites sous 2000 euros, un certain nombre de mesures, la suppression de l'ENA, c'est peut-être la seule surprise vraiment. Est-ce que ça montre que globalement, il a tenu compte, il tient compte de ce qui a été dit par les Français?
Il est clair que lorsque vous regardez chacune des mesures, elle correspond à l'aspiration d'une certaine catégorie des Français.
C'est ce qu'on disait.
Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'elles sont posées les unes à côté des autres sans qu'on voit le lien
qu'il peut y avoir. Donc là-dessus, il faut qu'il donne le fil conducteur série de mesures. Mais est-ce que ces mesures en tant que telles, elles montrent qu'il a pu se réformer sur certains points? Est-ce qu'il fait, vous dites, il a tenu compte?
On le voit bien, par exemple, sur la désindexation des pensions, il est revenu dessus. On sait que ça avait été quelque chose de très débattu et sur lequel il avait voulu tenir, que sur les territoires ruraux, les territoires qui finalement sont en désindustrialisation, il essaye d'apporter des réponses sur les problèmes de mobilité. Bon, on ne sait pas qui donc doit payer la mobilité, mais en tout cas, il a bien retenu qu'il y avait un problème là qui avait été fondamental dans le déclenchement de la crise.
Et puis, il y a cette fameuse question de la décentralisation, parce que ça, c'était, pardon, un de vos coups de gueule, de dire que il n'y avait pas assez de dialogue entre le président. Ça s'est dégradé, aviez-vous dit, avant de partir, au moment où vous êtes parti du ministère de l'Intérieur. Là, il a entendu? Il a compris?
Je l'espère, mais si vous voulez...
On n'est pas sûr, quand même.
On va voir dans les semaines qui viennent ce qu'il propose. Moi, je suis pour des réformes de structure profonde, mais des réformes institutionnelles qui répondent aux différentes réalités socio-économiques. La vraie difficulté de notre pays, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus homogène. Et donc, qu'il faut pouvoir adapter la réalité institutionnelle, c'est ça la différenciation,
par
finalement,
exemple,
aux réalités socio-économiques.
La différenciation,
vous voyez, par exemple, ce qu'on fait à Lyon, on n'est pas forcément transposable dans d'autres villes parce qu'il y a une histoire, une culture qui est différente. Nous, on a fait la métropole, réunir le conseil général et effectivement la communauté urbaine. Est-ce que cela peut se faire à Lille? Je n'en sais rien.
Donner la main aux régions, par exemple. C'est ce que vous appelez plus métropoles. De différenciation,
moi,
plus
si
de
voulez,
droit à la différenciation.
Si j'avais donc à résumer les choses, je dirais que là où il y a des grandes villes, il faut faire un couple grande ville, métropole, donc région, et là où il n'y a pas, par contre, il faut pouvoir donner tous les pouvoirs au conseil général. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une diagonale du vide qui va de l'Ardenne jusqu'aux Hautes-Pyrénées. Et là, vous n'avez pas de grande ville. Donc, elles ne peuvent pas prendre le leadership pour entraîner un territoire. Là, il faut que ce soit le Conseil général. Donc, il faut refuser aujourd'hui de vouloir bâtir une France uniforme.
Oui, il faut refuser l'homogénéité imposée par le pouvoir centralisateur.
Absolument.
Trop de verticalité, aviez-vous dit, à propos d'Emmanuel Macron.
À l'époque, oui, c'est clair. Il l'avait théorisé lui-même en disant il faut de la verticalité. Il avait même dit à un moment donné, dans l'histoire, il y a des moments où il faut être jacobin. On a vu effectivement que le jacobinisme en France ne marchait pas.
Et vous pensez que là-dessus, enfin, vous êtes confiant, en un mot, sur sa capacité?
Oui, je pense qu'il peut rebondir, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un de brillant. Il l'a montré dans les débats. On voit bien que c'est quelqu'un qui maîtrise ses dossiers. Il va même peut-être quelquefois trop dans le détail, en perdant le sens général. Moi, je me rappelle une phrase qui avait été celle de Mitterrand qui disait « Vous voyez, je vous présente des points, mais regardez que ces points forment une ligne. Eh bien, il faut qu'on voit la ligne. »
Gérard Collomb, un mot, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous êtes revenu pour préparer les municipales. Vous venez d'annoncer votre candidature à la métropole. La ville ne vous suffit pas, pardon.
Si vous voulez, on voit bien aujourd'hui que l'ensemble des pouvoirs est donc à la métropole. Pouvoir économique,
c'est là où il y a l'argent,
pouvoir d'urbanisme.
Hein.
Ouais. C'est pas simplement l'argent, c'est même la construction de la ville elle-même. La moitié des opérations qui se réalisent
à
Lyon
sont faites pour la métropole. Mais enfin, votre poulain, je peux l'appeler comme ça, non, David Kimfeld? Il présente aussi, du coup, vous êtes rivaux.
Mais vous connaissez les poulains.
Le parrain et
ça se cabre un peu de temps en temps. Donc voilà, c'est
vous
ça la difficulté.
Alors vous allez le domestiquer?
Non, toujours par la douceur.
Ah oui, mais par une recherche d'efficacité, la douceur. On a bien compris, on en reparlera. Juste un mot, l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, est parti, je crois. Hein. Je regarde Cyprien Sini pour en avoir la certitude.
Oui.
Bon, il faut quoi, une star pour entraîner Lyon maintenant? Laurent Blanc,
il faut
Mourinho.
Quelqu'un qui est le pouvoir absolu de composer son équipe et d'entraîner son équipe. C'est peut-être ce qui est difficile à Lyon.
Bon, écoutez...
Le message pour Jean-Michel Aulas me paraît tout à fait clair.
Merci à vous, Gérard Collomb, d'avoir été ce matin sur RTL.
Et merci à vous de l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site.